Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 39. À l'heure qu'il est quand tu lis cette lettre, je suis déjà loin, géographiquement, mais je voulais que tu saches à quel point je suis pourtant près de toi. S'il te plaît, pense à moi chaque jour, ne m'oublie pas. Je sais que chaque instant de ta vie parisienne t'éloigne un peu de moi, de ce que je suis. Aussi, prends cette graine et enfouis-la dans un terreau fertile. Arrose-la chaque jour et apporte-lui tout le soin dont tu es capable. Quand le germe affleurera la surface, je serai bientôt là. Marion. Anthony décolla délicatement le ruban adhésif et recueillit la graine au creux de sa main. Il l'observa longuement en la chargeant d'une symbolique presque sacrée. Il prit conscience du caractère magique de la vie végétale. Cette graine, ce minuscule morceau de plante, renfermait tout le patrimoine génétique de son espèce. Avec juste un peu de soleil et d'eau, elle deviendra une fleur ou un légume. Elle enjolivera le monde ou pourra le nourrir. Elle portera en elle des graines semblables qui perpétueront sa beauté et son utilité au fil des siècles, pour peu que l'homme y prenne garde. Il déposa la graine sur un morceau de coton humide et partit sur le champ acheter un petit pot de terre cuite et un sac de terreau. Il revint à la hâte pour fabriquer un cocon parfait à sa nouvelle protégée. Il disposa le pot près d'une fenêtre lumineuse et humecta lentement la terre en regardant l'eau s'enfouir par les interstices. Il relut enfin la lettre 10 ou 20 fois pour s'imprégner de chaque mot, de chaque syllabe. Il réalisa qu'aucun appareil, aussi sophistiqué et éthique fût-il, ne permettrait de joindre une graine à un message. Il songea que le papier lui-même était issu de la fibre des arbres. La nature, partout, était au service de l'humanité, et nous la détruisions chaque jour un peu plus. Anthony ressentit le besoin de rendre visite à Jean-Jacques. Il savait par ailleurs que ce dernier vivait difficilement les départs de Marion, et se dit qu'un peu de réconfort mutuel ne ferait de mal ni à l'un ni à l'autre. Il partit en Ardèche un week-end, comme il le faisait maintenant plus régulièrement, et dépoussiéra sa bicyclette pour se rendre chez le père de Marion. L'homme cachait derrière sa barbe des traits tirés et une âme fragile. Mais un sourire illumina son visage lorsqu'il salua le jeune homme, qui était maintenant plus qu'un simple visiteur. Quand sa fille lui avait annoncé leur liaison, il avait eu les larmes aux yeux. La joie de voir sa fille heureuse se mélangeait à la peine de la voir s'éloigner un peu plus de lui. L'ombre d'une solitude durable planait maintenant sur le vieil homme, peu épargné par la vie. Anthony l'aida à stocker convenablement ses fruits cueillis dans la journée. Il n'avait pas eu la force de les apporter au marché et seraient par conséquent destinés à d'autres usages, jus de fruits, conserves. Ils évitèrent de parler directement de Marion, mais son image se dissimulait derrière chacune des conversations. Anthony chercha à en savoir plus sur sa vision des échanges économiques. Il l'interrogea sur les raisons qui le poussaient à donner plutôt que vendre et à ne pas utiliser d'argent. Jean-Jacques réfléchit longuement avant de répondre, car pour comprendre son raisonnement, il fallait être capable de faire abstraction de plusieurs siècles de pratiques économiques jugées normales. Il confia à Anthony un ouvrage anthropologique sur la monnaie qu'il retrouva très rapidement dans les milliers de volumes qui peuplaient les étagères de sa bibliothèque et demanda au jeune homme de s'y référer plus tard s'il devait douter de son chemin de pensée. Puis, il exposa succinctement son point de vue. Derrière chaque monnaie, il y a l'idée de domination. Comme sur de nombreux autres sujets, l'histoire telle qu'on nous l'enseigne à ce sujet et telle que la société la colporte n'est pas exacte. On oppose souvent la monnaie au troc, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'avant d'inventer les pièces de bronze ou de fer, les gens s'échangeaient des poissons contre des pots, des légumes contre des armes ou des outils. Mais cette image d'Épinal n'existe que dans notre cervelle d'humain habitué à utiliser de la monnaie. Anthropologiquement, rien ne prouve qu'un tel mode de fonctionnement ait pu exister. Entends-moi bien, les seules preuves de société de troc qu'on a pu trouver sont le fait de peuples à qui on a brutalement supprimé ou confisqué une partie de la monnaie qu'ils utilisaient. Dans ce cas, comment faisaient les hommes avant d'avoir inventé la monnaie? Les notions d'économie et d'échange sont apparues avec la monnaie. Avant cela, les organisations humaines n'avaient nul besoin de prendre note de ce que ses membres se devaient entre eux. Ils vivaient juste ensemble. C'est précisément l'introduction d'un moyen de comptage des dettes de chacun qui a obligé la société à s'organiser différemment et, à mon avis, de manière moins efficace et surtout moins humaine. Pourtant, c'est aussi un moyen de responsabiliser chaque individu, de l'empêcher de vivre au crochet des autres. C'est notre projection de l'humain d'aujourd'hui, profiteur, fainéant, calculateur, ce type même qui est apparu avec l'invention de la monnaie que tu plaques sur ces sociétés ancestrales. Mais eux n'avaient pas ce type de problème. Ils en avaient d'autres, sans doute aussi compliqués que les nôtres aujourd'hui. Alors, vous n'utilisez jamais d'argent ? Je vis dans une société qui fonctionne avec de l'argent. Alors, je suis obligé de faire des compromis. Par exemple, je t'ai vendu une voiture. Qu'avez-vous fait de cet argent, si ce n'est pas indiscret ? Je n'en ai pas encore eu besoin. Si tu veux, je te le rends. Pourquoi n'avez-vous pas donné la voiture au lieu de la vendre ? Parce que le paradoxe de notre modèle économique, c'est qu'il est suspect de donner. Toi-même, tu as eu un moment de méfiance en découvrant son prix. Personne d'autre que toi n'a manifesté d'intérêt pour mon annonce, d'ailleurs. Pourtant, c'était une bonne affaire, non ? C'était incroyable, en effet, mais pour les fruits que vous donnez, vous n'avez pas eu ces formes de réticence ? Au début, si. Mais il est encore courant que les gens donnent leur surproduction à leurs voisins. Il s'agit de ne pas gâcher, tu comprends. On sait très bien qu'à moins d'être un professionnel, on ne vendra pas les fruits qu'on a en trop grand nombre dans son verger. Alors au début, les gens ont cru que je ne savais pas quoi faire de mes abricots. Ils les prenaient, parfois en faisant un peu la tête pour me dépanner. Et après, ils les goûtaient. Voilà, quand j'ai commencé à leur fournir plusieurs cagettes de fruits parfaits, de variétés oubliées dans lesquelles ils retrouvaient des sensations de leur enfance, l'odeur de la tarte de leur grand-mère le dimanche après-midi, ils ont compris que ma démarche était inhabituelle. Ils ont joué le jeu tout de suite et vous ont donné leur production à leur tour ? C'est plus compliqué que ça. Déjà, tous n'avaient pas de quoi me rembourser. Et ce n'est pas ce que j'attendais d'eux. Les pommes golden congelées du maraîcher avec différentes couches de pesticides et d'engrais sur la pelure, très peu pour moi, mais j'avais besoin de peu de choses. Du point de vue alimentaire, je suis devenu rapidement autosuffisant, mais j'ai régulièrement besoin de matériel ou d'entretenir celui que j'ai déjà, ce que je ne peux pas faire toujours seul. Des échelles, des pièces détachées pour le vélo ou le pressoir, par exemple ? Par exemple, même si on trouve dans les vide-greniers et même dans les déchetteries des choses étonnantes qui m'ont dépanné bien des fois. Mais cet objectif de vie n'est-il pas vain ? Je veux dire, vous n'allez jamais changer les choses en profondeur ? Qui suis-je pour changer les choses en profondeur ? Je me contente d'essayer de vivre en cohérence avec les concepts que je défends. Je fais vivre une idée, comme on empêche une variété étrange de disparaître sous les standards. Je suis une graine qui survit, qui porte ce germe un peu différent. Aujourd'hui, ce n'est pas un caractère dominant, mais demain, qui sait ? J'ai même des anciens étudiants en école de commerce qui viennent m'interroger. « Ah bon ?» s'étonna Anthony. Puis il comprit. « Ah, c'est de moi que vous parlez. Mais moi, c'est différent. »« Ah oui ?»« La graine qui m'intéresse, c'est votre fille, » plaisanta-t-il. « C'est une variété encore plus étrange, tu verras. »« J'ai bien peur qu'elle soit unique, et c'est pour ça qu'elle nous manque à tous les deux. »« Si on débouchait une de ces bouteilles de jus de pomme, pourquoi croyez-vous que je suis venu depuis Paris ?» Pendant un moment, l'absence de Marion leur parut moins lourde à porter.